La chute des Penthièvres. Après sa libération, Jean V ordonne le démantèlement de la forteresse de Chantosseau et interdit toute reconstruction. Bien qu'il ait été maltraité et humilié, le duc, fidèle à sa réputation de clémence, offre toutefois aux Penthièvres une chance de rédemption. Ils pourront être pardonnés à condition de faire publiquement amende honorable devant les États de Bretagne. Ceux-ci acceptent d'abord et livrent leur plus jeune frère, Guillaume, comme otage. Cependant, Olivier, Jean et Charles, craignant un piège, refusent de se présenter à Vannes et choisissent l'exil dans leurs fiefs respectifs en France. En conséquence, une procédure judiciaire est engagée à leur encontre. Faute de comparution, elle s'étire sur plusieurs années. En 1425, les États de Bretagne les condamnent par contumace à mort pour félonie et crime de lèse-majesté, assortissant la sentence de la confiscation de tous leurs biens bretons. Réfugiés hors du duché depuis 1420, les trois frères échappent à l'exécution, mais leur vaste apanage est définitivement intégré au domaine ducal. Jean V attribue notamment la seigneurie de Clisson à son frère Richard de Bretagne, en compensation des mois de captivité qu'il a endurés, consolidant ainsi l'emprise montfortiste sur ce fief stratégique. La prédiction d'Olivier V de Clisson se réalise. Il avait averti sa fille que son obstination à hisser ses fils sur le trône ducal les mènerait tous à leur perte, et le destin, inexorable, le lui confirme. Olivier meurt en exil en 1433, Jean en 1454. Charles s'éteint à son tour en 1462, mais laisse une seule héritière, Nicole. Par elle, la maison de Penthièvre survit, non comme un simple souvenir, mais comme une menace diffuse, tapis dans l'ombre, prête à réclamer l'héritage que les Montfort ont arraché à sa lignée. Quant à Guillaume, demeuré étranger au complot, il reste prisonnier durant 28 ans. Libéré en 1448, il reprend une vie ordinaire, se marie et meurt en 1455. Bien que profondément compromise, Marguerite de Clisson n'est pas formellement condamnée, car elle n'a pas personnellement participé à l'enlèvement du duc. Le pouvoir ducal choisit de frapper la lignée plutôt que la personne, préférant l'anéantissement politique à une sanction spectaculaire. Pour préserver une apparence de légalité, Marguerite dut reconnaître la suzeraineté de Jean V, mais cette soumission resta essentiellement symbolique. Elle disparaît alors de la scène politique et s'exile en France, où elle mène une existence retirée. Elle meurt en 1441, à l'âge de 75 ans, mais sa sépulture demeure inconnue. Les sources sur la fin de sa vie sont particulièrement lacunaires, contraste frappant avec le rôle majeur qu'elle a joué dans l'histoire du duché. Ainsi, Marguerite entre dans l'histoire comme la mère vengeresse qui osa défier un duc. Toutefois, son audace, confrontée à la loyauté unanime des Bretons, précipita la ruine de sa lignée. La chute des Penthièvres met fin à plus d'un siècle de rivalité et consacre définitivement la dynastie des Montfort. La naissance du culte breton de Saint-Yves. Yvelory de Kermartin naît en 1253 au manoir de Kermartin, près de Tréguier. Après des études de droit à Paris et Orléans, il devient prêtre et juge ecclésiastique, réputé pour sa droiture et sa défense des pauvres. Mort en 1303 et canonisé en 1347, Saint-Yves devient sous Jean V un instrument de légitimation du pouvoir ducal. Lors de sa captivité, le duc fait le vœu de lui rendre hommage par un tombeau prestigieux s'il retrouve la liberté. Libéré, il fonde la chapelle du duc à Tréguier et fait édifier un tombeau gothique destiné à accueillir les reliques du saint, renforçant ainsi le lien entre la dynastie Montfort et la sainteté bretonne. Le tombeau subsiste jusqu'à la Révolution, mais le culte de Saint-Yves s'impose progressivement comme un symbole central de l'identité bretonne. Il est reconnu, en 1924, comme saint patron de la Bretagne aux côtés de Sainte-Anne, et devient également le patron des avocats et des gens de justice dans le monde catholique.